Tout au long de l'année, les scientifiques qui se sont succédés au micro de La Tête au Carré nous ont permis de partager leurs connaissances et leurs découvertes, l'occasion de vivre grâce à une année très riche en avancées, en promesses et en curiosités, et ce dans tous les domaines de la science. Et pour basculer en 2015, je vous propose la dernière partie de notre rétrospective des moments marquants de La Tête au Carré. Au menu de l'émission aujourd'hui, un test de dépistage sanguin du cancer du poumon qui a fait la une en novembre, les 80 ans de la primatologue Jane Goodall qui nous avait rendu visite, la médaille d'or du CNRS à l'informaticien Gérard Berry, la disparition du génie des maths Alexandre Grothendieck et le centenaire de la guerre 14-18 avec le rôle essentiel des animaux. Tout cela est à découvrir dans quelques minutes. L'émission est réalisée par Fabrice Lègle. Elle a été préparée par Céline Hilla et Lucie Sarfati.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Cardigans, Love Fool sur France Inter.
Il arrive parfois que nous désespérons de l'état de ce monde. Ah, les savants.
La tête.
Que n'inventeront-ils encore
Carré.
Dans les temps à venir?
Le magazine scientifique de France Inter.
Ridicule tout ça!
Dernière rétrospective de l'année scientifique avec les moments marquants de La Tête au Carré. Le 1er novembre, on apprenait qu'une équipe de chercheurs de Nice avait mis au point une simple prise de sang pour dépister les tumeurs malignes du poumon.
Le cancer du fumeur, le cancer du poumon, quand il est diagnostiqué, c'est souvent trop tard. Il faut alors en passer par une thérapie lourde, très invasive, toujours traumatisante et sans l'assurance systématique de victoire totale sur la maladie. D'où l'importance à Nice des travaux réalisés par le professeur Paul Hoffmann et son équipe, le professeur Hoffmann, qui vient de mettre au point une procédure précoce de dépistage du cancer du poumon. C'est une première mondiale, c'est une avancée majeure.
C'est en fait une percée parce que beaucoup de chercheurs essayaient dans le monde d'obtenir ces diagnostics précoces avant les méthodes d'imagerie classique sans y arriver, y compris des groupes américains, y compris avec des techniques très nouvelles comme l'ADN plasmatique. Et c'était vraiment une course parce que le diagnostic précoce signifie forte probabilité d'éliminer le cancer définitivement. Et là, nous avons la preuve que le test que nous avons mis au point, que nous avons validé et fait valider par des groupes au niveau international pendant des années sur des patients avec cancer, pour en valider la sensibilité et la spécificité diagnostique, c'est-à-dire la capacité d'identifier une cellule tumorale sans erreur, a été capable de détecter le cancer des années avant que le cancer devienne détectable en imagerie.
Bonjour Paul Hoffmann.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est Patricia Paterlini-Bréchaud que l'on entendait à l'instant. Elle est oncologue à l'hôpital Necker à Paris. Vous êtes professeur au centre hospitalier universitaire de Nice et au centre de recherche de l'INSERM de l'université de Nice Sophia Antipolis. C'est donc votre équipe qui est à l'origine de cette avancée majeure dans le dépistage précoce du cancer du poumon. À quel moment a germé l'idée justement de cette simple prise de sang pour dépister des tumeurs malignes du poumon ?
En fait, avec mon équipe, donc dès 2007, on s'est mis en ordre de marche pour essayer de trouver ce test de dépistage précoce. Donc, comme vous l'avez souligné, c'est un travail d'équipe. Hein, ce n'est pas le travail d'une personne, mais c'est un travail, c'est un groupe hein, de cliniciens, d'ingénieurs et de pathologistes, effectivement.
Ouais. Donc, ça a mis du temps, au fond, pour arriver jusqu'à cette publication ?
Ça a mis effectivement 5 ans, puisqu'il a fallu inclure un certain nombre de patients et attendre l'évolution pour être sûr que ce que l'on faisait aboutissait à un résultat prometteur.
Ouais. Est-ce que la souris vous a d'abord servi de modèle au tout début ?
Alors effectivement, personnellement, je n'ai pas travaillé sur la souris, mais c'est des travaux qui avaient déjà été réalisés il y a plusieurs années, montrant que chez la souris, il y avait un laps de temps entre la détection dans le sang de cellules tumorales, alors que sur le plan de l'imagerie de ces souris, il n'y avait toujours pas d'image détectée au niveau radiologique, au niveau du parenchyme pulmonaire.
Ouais. Alors, il y a quelques semaines, Paul Hoffmann, personne en dehors évidemment de la communauté scientifique ne vous connaissait. Et puis depuis le 1er novembre, donc la sortie de cette publication, vos travaux évidemment suscitent de très nombreux espoirs dans ce domaine du cancer du poumon. Vous ressentez vous-même très fort ces attentes ?
Oui, une attente, puisque c'est un cancer évidemment qui a un pronostic qui est extrêmement défavorable lorsqu'il est diagnostiqué trop tard. Donc il y a une grosse attente de la part des cliniciens, de la part des patients. Effectivement, ça laisse susciter de gros espoirs. Il faut être prudent également dans le message que l'on délivre.
Oui, alors pour cette étude, justement, les premiers patients ont été pris en charge en 2008, je crois. Vous avez travaillé donc sur 245 personnes au total, dont 168 gros fumeurs. Et puis 5 personnes en particulier ont pu bénéficier en fait directement de ce test.
En fait, ce sont des patients qui étaient fumeurs, mais qui étaient également porteurs d'une maladie qu'on appelle la bronchopneumopathie chronique obstructive. Donc, ce n'est pas uniquement que des gros fumeurs, c'est des fumeurs atteints d'une maladie pulmonaire associée au tabagisme actif. En fait, 168 patients ont été suivis et parmi ces 168 patients, on a détecté chez 5 patients des cellules cancéreuses qui circulaient alors que l'examen scanographique était normal.
Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé donc suite à la détection de ces cellules précisément ?
Alors, la détection de ces cellules a entraîné un suivi beaucoup plus serré de ces patients sur le plan imagerie. Donc, on les a suivis par scanographie une fois par an. Et donc, ça a permis de détecter l'apparition d'un cancer pulmonaire et de les opérer de manière rapide, ce qui permet finalement d'entrevoir chez ces patients une guérison.
Comment vous avez travaillé avec ces 5 personnes en particulier ? Parce que là, évidemment, c'était un cadre un petit peu particulier pour elles. Tout laissait à penser qu'effectivement, ces tumeurs allaient se déclarer. Donc, elles ont participé aussi, d'une certaine manière, à votre recherche.
Tout à fait. Donc, les patients signent un consentement éclairé, une note d'information. Donc, elles ont volontairement participé à cette étude. Donc, chaque année, elles avaient un scanner de dépistage. Ce qui a permis donc une détection très précoce de ces cancers.
Ah ouais. Donc ces personnes ont été opérées ensuite ?
Alors ces patients ont été opérés comme tout patient pour lequel on détecte sur l'imagerie une image suspecte. Donc ces patients ont été opérés. C'est avéré qu'il s'agissait d'un cancer pulmonaire et donc actuellement ils sont considérés comme en étant en rémission complète.
Ouais. Vous avez gagné combien de temps pour ces personnes grâce à ce test ?
Probablement 3 à 4 ans.
3 à 4 ans, c'est énorme. Vous avez gagné du temps. Est-ce qu'on peut dire aussi que vous avez sauvé leur vie ?
Alors, on peut dire qu'on a probablement sauvé leur vie ou on a amélioré leur survie. En tout cas, actuellement, ces patients sont considérés comme étant en rémission complète. Donc, effectivement, on peut considérer qu'on a amélioré en tout cas la survie de ces patients.
Ouais. Chez les autres personnes qui ont travaillé autour de cette étude, donc 245, hein, je le disais il y a un instant, Qu'est-ce qui s'est passé globalement ?
Alors, dans la population contrôle, ce qu'on appelle une population contrôle, donc c'était des patients tabagiques, mais sans cette bronchopneumopathie chronique obstructive. Donc, chez ces patients, on n'a pas détecté de cellules tumorales circulantes. Donc, effectivement, on n'a pas continué à les suivre actuellement, puisque l'étude maintenant est arrêtée. Oui. Donc, on espère maintenant valider cette étude sur une cohorte beaucoup plus importante de patients.
Pourquoi, Paul Hoffmann, est-ce qu'on a autant de mal à dépister ce cancer suffisamment tôt, alors qu'on voit l'incidence de cette pathologie extrêmement grave qui est la première cause de mortalité par cancer en France aujourd'hui?
Alors c'est un cancer qui, sur le plan symptomatique, c'est-à-dire les premiers signes cliniques apparaissent très tardivement. En général, c'est un cancer qui apparaît alors qu'il est déjà en phase métastatique, c'est-à-dire que le patient ne peut plus être opéré. Oui. Il est uniquement traité par de la chimiothérapie ou par de la thérapie ciblée. Donc les symptômes de cette maladie apparaissent beaucoup trop tard pour pouvoir faire bénéficier au patient d'une intervention chirurgicale précoce.
Donc l'idée, évidemment, pour un fumeur, c'est de pouvoir bénéficier de ces tests pour pouvoir les passer régulièrement.
Alors, il faut être très prudent sur le message qu'on délivre. Ce n'est pas parce que l'on fume qu'on a une bronchopneumopathie chronique obstructive. Donc, ouais. Lorsqu'on fume, certes, on est à risque, mais on n'est pas à haut risque de faire un cancer du poumon. On ne peut absolument pas proposer ce test chez tous les fumeurs parce que finalement, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on n'a pas de cellules cancéreuses circulantes et que l'on fume, on peut continuer à fumer. Là, le message délivré serait totalement négatif.
Ouais, évidemment. Mais alors, donc, ces tests pourraient concerner toutes les formes de cancer du poumon ou pas?
Alors, ce test peut concerner toutes les formes de cancer du poumon, effectivement, tous les types histologiques, oui, tout à fait.
Pourquoi vous avez travaillé beaucoup sur cette maladie, Paul Hoffmann en particulier? Comment on fait ce choix dans la carrière d'un chercheur?
Alors, j'ai commencé mes études de médecine en faisant de la cancérologie, donc j'ai avant tout eu un métier d'oncologue médical, donc j'ai d'abord vu ces patients, j'ai vu que le pronostic de ce cancer était très défavorable.
Ensuite, concrètement, ça veut dire que vous avez vu beaucoup de personnes décédées. Hein,
tout à fait, donc dans ce cadre-là, on a comme ambition d'essayer d'améliorer la survie de ces patients. Et ensuite, je dirige une unité INSERM qui, sur le plan de la recherche translationnelle, travaille sur le cancer du poumon, donc ça m'a amené à faire ce type d'études.
Oui, donc entre 30 et 40 000 personnes sont concernées chaque année par le cancer du poumon. Première cause donc de décès en France, on le disait. Cette étude donc a été publiée dans la revue américaine PLOS ONE. C'est véritablement une première mondiale. Vous aviez de la concurrence ailleurs à l'étranger ou pas?
Alors, c'est une première mondiale lorsque l'on parle de dépistage précoce du cancer du poumon. Il faut savoir qu'il y a d'autres études qui sont actuellement en cours avec d'autres méthodes.
C'est ça, oui.
Et donc, il y a une certaine compétition à la fois en Amérique du Nord ou en Asie, pour essayer d'aboutir à ce type de résultat.
Oui. Donc là, vous, ce sont les tests sanguins, mais on pourrait imaginer quoi comme autre méthode? Alors l'ADN, par exemple pourrait...
Alors l'ADN, c'est également un test sanguin. Ce que font les Nord-Américains, c'est de proposer un dépistage systématique par un scanner spiralé, c'est-à-dire par de l'imagerie. Évidemment, sur le plan d'un modèle socio-économique, c'est beaucoup plus coûteux. Et ensuite, il y a également un rapport bénéfice-risque d'irradiation plus important chez les patients si on les suit uniquement par tomodensitométrie, c'est-à-dire par scanner.
Ouais. Quel est l'avenir de votre découverte, Paul Hoffmann, maintenant? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'évidemment, il y a cette publication très prometteuse, mais ça n'est pas suffisant. Vous avez travaillé sur un nombre limité de personnes. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que votre expérience soit reproduite avec plus de patients?
Alors exactement, il faut faire d'abord ce qu'on appelle une validation sur une cohorte de patients beaucoup plus importante, si possible en multicentrique, c'est-à-dire dans d'autres centres hospitalo-universitaires ou de centres anticancéreux que ce qui s'est passé au CHU de Nice. Oui. Donc il faut inclure plus de patients de façon à pouvoir valider ces résultats qui sont prometteurs. Mais il faut être extrêmement prudent sur le message que l'on délivre, c'est-à-dire sans validation sur une cohorte plus importante, évidemment ce résultat doit être pris avec une certaine prudence.
Oui. Donc vous avez beaucoup d'équipes qui sont venus vers vous pour refaire cette expérience? Comment ça se passe?
Alors, on a installé maintenant l'équipement et la machine donc, qui nous permet de filtrer le sang dans d'autres centres hospitalo-universitaires français. Donc, ce que l'on veut faire maintenant, c'est à partir du mois de février 2015, faire cette validation. Donc, effectivement, on est en pourparlers pour faire cette étude multicentrique.
On sent bien que cette avancée, cette découverte est considérable. Une fois de plus, vous êtes très prudent, on l'a bien compris. Hein. Vous cherchez de l'argent en ce moment aussi concrètement pour pouvoir aller plus loin dans vos recherches.
Alors évidemment,
c'est le nerf de la guerre de tout chercheur.
C'est ce qu'on appelle le nerf de la guerre. Donc il faut faire une levée de fonds. Cette levée de fonds passe évidemment par des dons, par des fondations. Donc on est actuellement en train d'essayer de faire une levée de fonds pour cette validation.
Et la recherche publique, non?
Alors la recherche publique, pour l'instant, il faut déposer des dossiers, hein, c'est-à-dire que la recherche publique française passe par, disons, l'examen de dossiers et des projets de recherche. Donc actuellement, on va déposer un projet de recherche. Il faut savoir qu'entre le moment où on dépose un projet et le moment où la somme d'argent pour faire ce projet arrive, il y a toujours un décalage. Donc c'est vrai que c'est un petit peu une course contre la montre pour essayer d'aller plus vite, puisque ce type de test peut être évidemment maintenant développé dans d'autres pays que la France.
Ouais, vous avez besoin de combien d'argent concrètement? Imaginez, il y a un mécène là, qui vous écoute aujourd'hui sur France Inter en ce 31 décembre. Il a envie que 2015 soit la plus belle de toutes les années. Combien d'argent?
Fait, on a, la recherche clinique coûte très cher. En fait, on a évalué à 1 million d'euros globalement pour faire cette validation sur 500 patients.
Il paraît qu'il y a même des multinationales du tabac qui vous ont proposé de vous aider financièrement, c'est vrai ça ou pas?
Oui, j'ai eu une approche effectivement, mais vous pouvez imaginer ma réponse.
Donc c'était niette, bien sûr.
Oui.
Voilà, Paul Hoffmann, 1er novembre 2014, publication donc dans PLOS ONE de cette découverte, de cette étude, de ce test sanguin. C'est une date importante pour vous?
C'est une date importante pour l'ensemble de l'équipe, oui, tout à fait.
Et qui fera sans doute date, en tout cas, autour du cancer du poumon. Merci infiniment, Paul Hoffmann, d'être venu aujourd'hui pour cette dernière journée de l'année.
Merci
et pour évoquer effectivement l'une des découvertes les plus importantes dans le domaine de la santé. Merci à vous.
Merci.
Elle a fêté cette année ses 80 ans et en mai dernier, la célèbre primatologue britannique Jane Goodall était de passage en France, l'occasion de l'accueillir pour un entretien exceptionnel dans La Tête au Carré afin d'évoquer son engagement pour les chimpanzés. Inlassable globe-trotteuse, Jane Goodall ne cesse de mettre sa notoriété au service des primates en voyageant à travers la planète.
Étant donné que j'ai la formidable possibilité de commencer à comprendre les chimpanzés, cela fascine les gens. La femme qui s'occupe des chimpanzés, la Belle et la Bête, vous voyez. Donc, à cause de ça, et grâce à National Geographic et ses documentaires et ses articles, je suis nimbé d'une espèce d'aura. Et par conséquent, cela me donne accès à des gens très importants dont la curiosité est insatiable. Donc j'ai la possibilité d'arriver à voyager un petit peu partout dans le monde, à transmettre des messages qui, je l'espère, pourront peut-être changer les choses.
Jane Goodall, cette année, une vidéo a circulé énormément sur Internet. Elle date de l'année dernière, où l'on voit une femelle chimpanzée qui s'appelle Wanda vous enlacer au moment où vous la relâchiez dans la forêt du Congo. Cette image a suscité une émotion inouïe pour le public, mais pour vous aussi. Pour quelle raison?
Personne ne comprend exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Wanda devait avoir 14 ans à peu près. Elle avait été très malade. Elle a frôlé la mort. Wanda, du reste, cela signifie proche de la mort. Et il se trouve que j'étais là lorsque on a décidé de l'emmener du sanctuaire où nous avons 163 chimpanzés orphelins, ce qui est un cauchemar, pour l'emmener vers l'une des trois grandes îles qui ont été données sur le fleuve. C'était la première fois que je la rencontrais. J'étais là avec elle, sur le bateau. Elle était avec des gens qu'elle connaissait, mais elle était préoccupée, elle était inquiète. Elle n'avait jamais été sur un bateau, elle ne savait pas du tout là où elle allait. J'essayais de la rassurer. Elle était dans une cage, nous communiquions à travers les barreaux. Et lorsqu'on l'a relâchée, c'était extraordinaire. Elle était en contact avec Rebecca, qui l'avait soignée. Quelqu'un l'a caressée et tout à coup, elle m'a regardée et il y a eu un geste incroyable. Elle m'a prise dans ses bras et ça a duré bien plus d'une minute. Et je peux vous dire que tout le monde pleurait. Pourquoi ça s'est produit? Je n'en ai pas la moindre idée.
Comment vous interprétez ce geste? Vous qui maintenant connaissez bien ces chimpanzés, est-ce qu'on peut l'interpréter comme une forme de remerciement ou de salut de la part de ce primate?
Non,
ni l'un ni l'autre.
J'ai
un lien particulier avec différents types d'animaux. Il y a un lien émotionnel, peut-être un lien spirituel d'ailleurs. Et c'est peut-être de cet ordre-là. C'est peut-être un lien entre nous à ce qui s'est produit lorsque nous étions sur le bateau. Quelle en est la signification? Eh bien, on en a beaucoup parlé, mais comme je vous dis, je n'en ai pas la moindre idée.
Jane Goodall, quels sont les domaines qui, selon vous, vont certainement donner naissance à de nouvelles découvertes d'envergure autour des chimpanzés, Jane Goodall?
I'm not sure about the major discoveries.
Je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de grandes découvertes. Il y a un aspect que nous avons découvert, qui était auparavant impossible, c'est qu'on ne savait pas qui étaient les pères des enfants. Pour les mères, il n'y a pas de problème. Mais pour les pères, on ne pouvait pas les identifier. Voyez.
Aujourd'hui,
il faut donc collecter des selles, en faire une analyse en laboratoire, et lorsqu'on a fait ça pour tous les chimpanzés, on fait une lecture du profil génétique et on sait qui sont les pères. Alors voilà, un nouveau domaine de recherche. Est-ce qu'on pourrait acquérir une connaissance sur le fait qu'un père connaisse son enfant dans une communauté de chimpanzés? On ne sait pas, mais on peut peut-être essayer de comprendre les choses. À mesure qu'il y a de plus en plus de données émanant du terrain, on pourra comprendre les différences culturelles, parce qu'on peut travailler sur différentes populations. Il y a des comportements qui sont transmis à de la génération suivante. Par conséquent, on peut déterminer le niveau de variation culturelle d'une génération à l'autre. Et ça peut être un domaine de recherche intéressant, un domaine fort passionnant.
Et donc les travaux sur la mémoire se poursuivent également autour du chimpanzé. Il y a des choses fascinantes à dire aussi là-dessus.
Oui, il y a beaucoup d'anecdotes quant à la mémoire. Et aujourd'hui, on commence à poser des questions un petit peu plus sérieuses sur la mémoire. Les questions sérieuses nous font dire que oui, on est arrivé à mémoriser les choses sur 3 ou 4 ans. Les preuves anecdotiques peuvent être intéressantes. Il y a un chimpanzé qui avait appris le langage des signes, par exemple. Et les gens qui lui avaient appris étaient comme ses parents. Et à l'âge de 8 temps, il ne pouvait plus faire face à cette chimpanzé et c'est un étudiant qui s'en est occupé et ils ne l'ont pas vu pendant 8 ans. Et puis lorsqu'ils sont revenus, 11 ans plus tard, le chimpanzé les a regardés, puis a fait le signe exprimant le nom de la femme et le nom de l'homme, et puis il a fait le chimpanzé a également fait le signe pour dire « Je vais vous prendre dans mes bras, venez dans les miens », et tout le monde était en pleurs.
Jane Goodall de passage donc dans La Tête au Carré cette année à l'occasion de ses 80 ans. Notez également que le Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris proposera à partir du 11 février prochain une grande exposition sur la piste des grands singes. En septembre, et comme chaque année à la même période, on apprenait le nom du lauréat de la médaille d'or du CNRS, la récompense scientifique française la plus prestigieuse. Et cette année, c'est à l'informaticien Gérard Berry qu'elle a été attribuée. Professeur au Collège de France, Gérard Berry travaille sur le traitement des langages de programmation, mais aussi sur la conception de circuits intégrés assistés par ordinateur. Ses travaux ont permis de grandes avancées en informatique et ont donné naissance à beaucoup d'applications. Il était notre invité le 26 septembre pour nous en parler.
J'ai hésité entre deux sciences, la biologie et l'informatique. Et la biologie, c'était déjà pas mal établi avec les prix Nobel français, etc. C'est très différent parce que les sciences de la nature sont très différentes des sciences de l'information. La matière est comprise en France, l'information pas vraiment encore. C'est pour ça que l'informatique n'est pas très bien comprise. Les sciences de la matière, c'est lent parce qu'il faut énormément observer. Les expériences sont compliquées. Mmh. Alors qu'en informatique, on fabrique tout. C'est nous la limite. Et donc, ça me tentait vraiment. C'est un immense jeu de construction scientifique et ça me tentait beaucoup. Ouais. Puis c'était tout neuf aussi.
Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Ça balbutie
tout
quand
neuf,
même
il n'y avait pas de vieux.
Ouais. Donc ça aussi, c'était un milieu de jeunes.
Un milieu de jeunes.
Aujourd'hui, on considère vraiment que c'est une science à part entière, l'informatique.
Absolument, c'est une des plus développées au monde à l'heure actuelle. Et là, c'est des méthodes de raisonnement, ce qu'on appelle la pensée algorithmique, qui est tout à fait différente des sciences de la matière. Mais par contre, on va la voir rentrer de plus en plus dans les sciences de la matière, non pas comme outil, mais comme façon de penser.
C'est-à-dire?
Mais par exemple, les neurosciences, notre cerveau, il calcule de l'information. En biologie, les cellules, ça se modélise par des systèmes d'information, pas uniquement des molécules. Ce n'est pas du tout la même chose de raisonner sur des molécules ou des systèmes d'information. Donc moi, je discute beaucoup avec les biologistes, enfin j'essaye, hein. Il faut comprendre la biologie, c'est pas facile, mais avec les neurosciences aussi, parce qu'on comprend un tout petit peu mieux, mais on ne sait pas ce que c'est que le code neural encore, mais c'est complètement algorithmique ce qui se passe, ce n'est pas du tout que biologique, physique et électrique. Ouais.
Et c'est tellement complexe qu'on a vraiment besoin pour le coup de l'informatique et des algorithmes pour y comprendre.
Oui, il y en a pour un bout de temps, ça va nous occuper un moment ça.
Gérard Berry, la programmation diffuse, ça c'est votre domaine particulier, ça veut dire quoi exactement ?
Bien, quand on a commencé en 82 à avoir des nouvelles idées complètement inconnues, c'était pour commander les objets de l'époque, les avions, les trains, les choses comme ça. Mm-hmm. Et ces objets étaient tous dissociés les uns des autres. Et maintenant,
c'est
avec Internet,
le contraire qui se
avec
passe
Internet,
aujourd'hui,
hein. Oui, faut savoir que 98% des processeurs informatiques sont dans les objets et que la plupart des objets vont être connectés à Internet et qu'il va falloir programmer tout ça. C'est un milieu complètement diffus. La moitié des trucs ne marchent pas, tombent en panne, ne répondent pas.
C'est vrai.
Et ça va demander des techniques de programmation très différentes.
Ouais.
Mais quand même, il se trouve que les idées qu'on avait eues avec tout un groupe de gens du CNRS aussi dans les années 80 s'appliquent parfaitement parce que les bonnes idées ont les épaules beaucoup plus larges que leur première application. Et donc, ce que j'avais fait pour le langage SRS, je ne vais pas raconter ce que c'est, ça s'applique tout à fait bien pour essayer de comprendre comment ordonner, synchroniser et orchestrer des activités complètement variées sur le web avec des objets, avec des programmes qui calculent dans tous les sens.
Le gros, c'est de faire le ménage et de simplifier au maximum.
Voilà. Pour l'instant, le web, c'est un nombre extraordinaire de langages de programmation plus ou moins baroques. Qui ont évolué biologiquement, je dirais, parce que simplement, ça a été créé de partout en fonction des besoins. Il est temps de mettre un peu de l'ordre de la science là-dedans, mais c'est très bien, les gens ont réussi à fabriquer des choses incroyables avec ça. Mmh. Mais c'est un peu comme les voitures, il y avait 300 constructeurs de voitures en France avant la guerre, maintenant il y a beaucoup moins, mais les voitures marchent quand même un peu mieux.
Mmh. L'idée, c'est de trouver un langage commun qui soit universel à
tous. Il n'y a pas qu'un langage, il y a des principes. Il y a les principes, les façons de penser et le langage. Le langage, ça n'est jamais qu'une concrétisation des principes. Donc si on... Des langages de programmation, il y en a des milliers, il y en a beaucoup qui se ressemblent énormément. Mmh. Ce qu'on a fabriqué repose sur des principes différents. Et je peux vous dire que vous volez avec tous les avions que vous prenez.
Oui, alors c'est ça. Vous avez travaillé par exemple pour les avions de chasse. Hein. Ça veut dire quoi alors concrètement? Qu'est-ce que vous avez
Ce sont des langages, même pas que les avions de chasse. Hein. Les Airbus, c'est fait avec ça. Les avions chinois aussi. Beaucoup d'avions. Le principe, c'est de jouer avec le temps et de jouer avec les événements. La plupart des programmes qu'on enseigne ou qu'on connaît, on pense qu'on leur donne des données, ils calculent, shrunk, et puis après, ils rendent un résultat. Mais un avion, ce n'est pas du tout ça. Ça vole en interagissant en permanence avec son environnement. Donc, c'est un peu comme nous, ce sont des programmes qui n'arrêtent pas de recevoir des signaux de partout et de calculer ce qu'il faut faire. Et la difficulté est de gérer tous ces signaux en coordination.
Mmh. Gérard Berry, vous aimez la marge, vous aimez la photographie et vous êtes pataphysicien.
Oui, c'est la nuit, je suis déformaticien.
C'est ça,
Donc l'informatique, c'est la science de l'information et la déformatique, c'est le contraire.
Ouais.
Et ces principes sont éminemment scientifiques. Son grand principe que j'ai emprunté à Oscar Wilde, c'est « appuyez-vous sur les principes, ils finiront bien par céder ».
Ouais. Il n'y a pas beaucoup de femmes, je n'étais pas pataphysicien encore. Hein.
C'est comme l'informatique. Pour l'instant, je suis tout seul en déformatique, mais j'accueille.
C'est très ouvert.
Sur ma page web, il y a mes écrits de déformatique, mais j'accueille.
L'informaticien Gérard Berry, médaille d'or 2014 du CNRS. Dans un instant, la suite de notre rétrospective avec la femme scientifique de l'année, un hommage à un mathématicien de génie et un hommage également aux animaux de la Grande Guerre. Marilyn Manson à l'instant sur France Inter.
La tête carrée sur France Inter.
La suite de notre rétrospective avec quelques-uns des moments marquants de cette année 2014 et parmi ces moments importants, le prix Irène Joliot-Curie qui récompense la femme scientifique de l'année en France.
Le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et la fondation d'entreprise Airbus Group distinguent cette année trois femmes scientifiques au parcours d'excellence. Trois lauréates émues, investies dans leur devoir de transmission des savoirs et de la valorisation de la culture scientifique. Lors de la remise du prix, Geneviève Fiorazzo a insisté sur la mobilisation du ministère et de la fondation d'entreprise Airbus Group en faveur de la parité dans les filières scientifiques, secteur où le déséquilibre est frappant.
Les femmes représentent à peine 15% des professeurs d'université dans les disciplines scientifiques et technologiques. Moins de 20% des ingénieurs sont des femmes, je l'ai dit, et 10% seulement pour les créateurs d'entreprises. Donc se priver des talents, se priver de la parité, c'est pas bon pour la compétition. C'est pas bon non plus pour la stimulation des équipes.
De son côté, Najat Vallaud-Belkacem regrette que moins d'un chercheur sur trois soit une femme.
À toutes les trois, je veux vous dire que vous serez pour nous, avec Geneviève Fiorazzo, un petit peu les porte-drapeaux de cette action que nous voulons porter pour conduire le changement et pour faire de la recherche et de la science un domaine dans lequel les femmes excellent.
Bonjour Hélène-Olivier Bourbigou.
Bonjour.
Bienvenue. C'est donc vous qui êtes la femme scientifique de l'année. Vous êtes chimiste, responsable des recherches dans le domaine de la catalyse moléculaire à l'IFP Énergie Nouvelle. C'est à Lyon. Et c'est vrai que ce prix est destiné à promouvoir donc la place des femmes dans la recherche et la technologie en France. Est-ce que d'abord vous êtes nombreuses dans ce domaine de la chimie ?
Alors c'est vrai que dans le domaine de la chimie, maintenant, on peut dire qu'il y a quand même presque la parité, en tous les cas, dans mon environnement direct.
Ouais.
Mais quand je suis arrivée dans mon milieu professionnel, il y avait effectivement peu de femmes. Et pour être plus précise, dans le groupe dans lequel je travaillais, nous étions deux.
Oui, effectivement,
donc c'était effectivement peu de femmes. Donc ça peut s'expliquer peut-être par le parcours des femmes qui s'auto-censurent sans doute sur ces filières scientifiques.
Ouais. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il semble que nous soyons sortis de ce déséquilibre entre, dans votre domaine en tous les cas, entre le nombre de filles et de garçons, parce que dans les mathématiques, dans la physique, c'est loin d'être le cas quand même. Hein.
C'est vrai, je pense qu'on subit encore sans doute des stéréotypes. Et tout d'abord les mots qu'on utilise, c'est vrai qu'on dit que par exemple la chimie, la physique, les mathématiques sont des sciences dures,
ouais.
Et pour autant les femmes sont le sexe faible. Donc les mots déjà sont sans doute mal utilisés, et je pense qu'il y a une méconnaissance des métiers qui sont les nôtres. Et c'est en parlant de ces métiers qu'on pourra éviter qu'il y ait ces stéréotypes, justement, et éviter d'altérer la confiance des jeunes femmes pour aller vers ces filières, si tant est qu'elles ont la vocation.
Oui, donc vous parlez d'autocensure. Ça, c'est un aspect que vous avez observé ?
Oui, peut-être. Peut-être de l'autocensure, parce que les femmes sont peut-être très exigeantes par rapport à leurs compétences, par rapport au niveau qu'il faut qu'elles atteignent pour aller vers ces filières qui sont également très exigeantes. Et je pense qu'à ce niveau-là, il faut un soutien. Et j'avoue que ce soutien par des personnes qui sont clés dans les parcours et dans les choix est important. Le soutien également de la famille.
Ça a été votre cas
direct. Alors ça a été le cas. J'avoue que mes parents m'ont soutenue en premier lieu.
Oui, parce que qu'est-ce qui vous a attiré, vous, dans ce domaine de la chimie en tant que fille, au milieu donc d'un univers très masculin ?
Alors, le choix, c'était au départ les sciences. Et je crois que le déclic, en fait, s'est opéré au niveau justement de ces stages qui m'ont montré vraiment ce que c'était que la recherche, en chimie en particulier.
Ouais.
Et c'est effectivement se poser des questions, être curieux, observer, avoir du bon sens, mais aussi avoir de la rigueur. Mmh. Et là, je dirais, les personnes qu'on rencontre sont décisives. Donc ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes clés dans ma carrière qui ont orienté mes choix. Par exemple, Yves Chauvin, qui a été mon directeur de thèse et qui m'a
grand
transmis...
Grand chimiste, prix Nobel quand même, hein, il faut
exactement,
le rappeler.
Exactement, et qui 2005, m'a transmis effectivement à la fois sa passion, sa connaissance, mais aussi son ouverture. Il était très à l'écoute, des jeunes, très ouverts. et il les sépare à l'initiative des chercheurs, ce qui est très important pour les jeunes chercheurs, parce que ça leur donne confiance et ça leur permet de pouvoir discuter avec les meilleurs au niveau scientifique.
Ouais. Alors aujourd'hui, Hélène Olivier Bourbigou, vous êtes reconnue comme l'un des meilleurs experts mondiaux justement dans ce domaine qui est celui de la catalyse. Alors là, les choses vont un petit peu se corser dans notre discussion. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce que vous faites dans ce domaine et en quoi consistent vos travaux de recherche ?
Alors effectivement, mes travaux consistent à transformer une matière première par une réaction chimique en des produits synthétiques que l'on trouve en général pas dans la nature et qui vont être utilisés dans notre quotidien, vie de tous les jours. Alors par exemple, on trouve, je vais citer les matières plastiques qu'on trouve dans les emballages, dans les emballages souples par exemple pour la cosmétique. On trouve aussi les matières plastiques dans l'automobile, dans la construction. Donc c'est vraiment très large au niveau des applications et on demande des propriétés très spécifiques à ces produits.
Alors, qu'est-ce que vous faites exactement ? En quoi ça consiste plus précisément ? Puisque là, on peut quand même rentrer un peu dans le vif du sujet.
Alors, dans cette recherche, effectivement, ce qu'on va faire, c'est l'intermédiaire qui va être utilisé pour faire ces matières plastiques et avant tout les polymères qui vont servir à ces matières plastiques. Et dans ces réactions chimiques, le catalyseur est au cœur de la réaction.
Donc de la transformation au fond, c'est ça, de la matière brute pour le résultat que vous souhaitez en avoir ?
Exactement. En fait, on construit cette chimie au travers d'une chimie durable, ou d'une chimie qu'on peut dire verte ou respectueuse de l'environnement. Et le catalyseur est au cœur de ces défis.
Donc au départ, il y a des énergies fossiles, et puis vous travaillez pour les transformer et en faire ensuite des produits. Et donc il y a cet intermédiaire qui fait qu'on arrive à cette transformation.
Exactement. En fait, le catalyseur... Alors, il y a des produits fossiles ou d'ailleurs des produits qui sont d'origine autre que fossile. Fossile, c'est effectivement le pétrole, le gaz, le charbon. Mais on peut aussi avoir recours à des ressources qu'on appelle renouvelables, qui sont par exemple la biomasse. Et le catalyseur est une substance qui va permettre de favoriser la réaction, de l'accélérer par exemple, ou de faire en sorte que cette réaction se fasse dans des conditions plus douces. Il va également avoir pour rôle de cibler le produit que l'on souhaite faire dans cette réaction. Donc, il va répondre à tous ces défis qui sont aujourd'hui de type environnementaux, de type économique également, pour être plus compétitif, donc de faire des procédés qui sont à la fois plus respectueux de l'environnement, mais plus éco-efficients également. Et le catalyseur répond à ces défis, puisqu'il va cibler sur le produit qu'on désire faire. Donc, il va permettre de mieux utiliser la ressource, par exemple, et de favoriser le procédé dans toutes ses étapes, en particulier dans les étapes ensuite de séparation du produit que l'on va désirer.
Et donc, vous travaillez au niveau de la molécule. Tout ça se fait à des échelles très petites ?
Alors, effectivement, dans cette recherche, l'intérêt aussi et la passion que j'y ai trouvée, c'est de travailler à la fois à partir du laboratoire, en ayant recours à des recherches qui sont à caractère très académique et fondamental, et également d'aller jusqu'au développement industriel. Donc, d'aller de la molécule jusqu'au procédé. Et là, il y a toute une chaîne de valeur qui va mettre en contact et qui va permettre des interfaces entre toutes les compétences de cette chaîne de valeur. Et on voit qu'on va faire du multi-échelle, c'est-à-dire qu'on va aller du laboratoire, c'est-à-dire de l'atome, de la molécule, avec ici, par exemple, recours à de la chimie qui peut être théorique, de la simulation, et puis aller jusqu'au procédé industriel, jusqu'à des procédés qui sont opérés aujourd'hui sur plusieurs, quelquefois centaines de kilotonnes par an. Donc c'est des très gros volumes.
Ce sont des très gros volumes. C'est une industrie très importante aussi en France.
C'est une industrie très importante en France et la chimie en général. On peut dire que la France est première exportatrice dans ce domaine, qu'elle est au sixième rang mondial. Donc c'est très important. Et puis au niveau de l'emploi, c'est 950 000 personnes, c'est énorme.
Ouais. Aujourd'hui, Hélène Olivier Bourbigou, vous travaillez en particulier, vous le disiez, sur l'environnement. Donc tout ce qu'il y a autour de ce qu'on appelle la chimie verte aujourd'hui. C'est vraiment le cœur de vos travaux aujourd'hui. C'est essayer d'améliorer au fond les processus pour qu'ils soient le plus respectueux possible, en tout cas de l'environnement.
Tout à fait. C'est un de nos objectifs également. Donc effectivement, on peut dire qu'aujourd'hui, les matières qu'on utilise dans la vie du quotidien sont essentiellement faites à partir de matières fossiles. Mais aujourd'hui, on essaye de diversifier la ressource. Et ça, c'est important aussi de ne pas être dépendant d'une seule ressource, par exemple le pétrole, dont on sait qu'il y aura une fin. Donc cette diversification de ressources a pour objectif, par exemple, d'aller sur des ressources de type biomasse. Donc c'est des ressources renouvelables et en particulier des ressources qui ne sont pas en compétition avec l'alimentaire. Donc on va utiliser, par exemple, des déchets agricoles, des ressources de type qu'on dit lignocellulosique, c'est-à-dire à partir de paille de blé ou de cultures qui sont dédiées. Et cette diversification de ressources donc, qui nous entraîne vers une non-dépendance est importante parce qu'elle va avoir pour corollaire de favoriser tout ce qui va être émission effet de serre, donc de diminuer l'émission de gaz à effet de serre et donc d'avoir un rôle positif sur le changement climatique, par exemple.
Qu'est-ce que vous souhaitez découvrir, Hélène Olivier Bourbigou, vous qui êtes chercheuse justement, ce serait quoi votre grande découverte ou celle que vous êtes en train peut-être d'étudier ?
Ma grande découverte, alors effectivement, c'est d'aller vers des innovations, c'est produire des procédés qui sont plus respectueux de l'environnement. Mais au niveau de l'approche, ce que j'aimerais vraiment arriver à faire aujourd'hui, c'est à créer des liens entre les différentes disciplines. Et ce que j'aimerais vraiment faire, c'est arriver à communiquer avec cette communauté scientifique qui est très riche en France et chez les femmes aussi, et de favoriser cet échange et cet enrichissement mutuel.
Hélène Olivier Bourbigou, femme de l'année, femme scientifique de l'année en France, prix Irène Joliot-Curie. Félicitations à vous et merci d'être venue en cette dernière journée du mois de décembre et cette dernière journée de l'année 2014 dans la tête au carré. Belle année à vous.
Je vous remercie.
Merci, au revoir. Le 14 novembre dernier, on apprenait la disparition d'Alexandre Grothendieck, considéré par beaucoup comme le plus grand mathématicien du XXe siècle et le refondateur de la géométrie algébrique. Il est mort à l'hôpital de Saint-Girons dans l'Ariège, près de La Serre, le village où il s'était retiré du monde au début des années 90. Le mathématicien Luc Illusi avait été l'élève de Grothendieck. Il est venu lui rendre hommage le 14 novembre dans la tête au carré.
Tout d'abord, je voudrais exprimer mon émotion et ma tristesse. J'ai très bien connu Grothendieck, j'ai été son élève et nous avons été proches pendant les années 60. Et je peux dire que la formation que j'ai reçue de lui, toute ma carrière lui est due essentiellement. Il a dirigé ma thèse. Mais je voudrais expliquer peut-être à ceux qui nous écoutent ce qu'on entend par géométrie algébrique.
Oui, bien sûr.
Parce que
il faut nous éclairer
Grothendieck,
sur ce point.
Grothendieck s'est illustré dans les années 50 par des travaux remarquables en analyse fonctionnelle, mais il s'est vite tourné vers d'autres horizons. L'algèbre homologique et puis la géométrie algébrique. Qu'est-ce que la géométrie algébrique ? On pourrait dire d'un mot que c'est l'étude des propriétés arithmétiques et géométriques des objets mathématiques qui sont définis par des équations polynomiales, des polynômes, comme les lycéens en considèrent, avec des coefficients d'un certain type. C'est un sujet très ancien qui remonte aux mathématiciens grecs. Et en fait, Grothendieck a entrepris de renouveler complètement les fondations de cette géométrie algébrique de manière à pouvoir traiter sur un pied d'égalité la topologie, la géométrie et l'arithmétique, de faire de la géométrie sur les entiers, sur les nombres premiers. Ce n'était pas un rêve complètement absurde. Des mathématiciens allemands y avaient déjà pensé dans les années 30, mais il a construit la machine qui permettait de le voir. Et quand on pense à Grothendieck, il y a un mot qui vient. C'est le mot functeur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un functeur ?
S'il vous plaît.
Eh bien, les élèves des lycées étudient des fonctions. Eh bien, Grothendieck, lui, travaillait avec des functeurs. Des functeurs, c'est des objets mathématiques qui permettent de mettre en relation des structures diverses, a priori mal reliées les unes aux autres. Et ces functeurs permettent de décrire de manière très fine, comme Grothendieck l'a montré, des propriétés arithmétiques et géométriques extrêmement précises et de manière particulièrement souple. Donc il a inventé un nouveau langage où ce ne sont pas tellement les objets eux-mêmes, je ne sais pas, une sphère, un tore ou ce que vous voulez, ou juste une équation qui sont importants, mais les relations qu'ils ont entre eux. Et nous étions un petit groupe d'étudiants autour de lui. On déchiffrait des territoires vierges. On allait dans l'inconnu et c'était à la fois effrayant et, je dirais, exaltant. Il y avait une sorte d'euphorie, une grande impression de liberté.
Ouais. Sur le plan humain, alors comment était-il, Alexandre Grothendieck ? Parce qu'on retient beaucoup aussi son histoire personnelle, avec sa volonté de se retirer du monde, de refuser la médaille Fields en 1966, de s'engager aussi ensuite pour des causes très particulières.
Donc on retient des aspects, peut-être, pour nous dire, négatifs, aussi une certaine amertume qu'il a développé dans les années 80, le
Pourquoi
fait de se retirer.
Pourquoi ?
Eh bien, il était assez, disons, fâché de n'avoir pas été compris, d'avoir quitté le devant de la scène mathématique en 1970, pour des raisons, essentiellement des raisons politiques. Mmh. Hein, donc ses collègues n'ont pas compris qu'ils nous disent « Ah, mais maintenant, la priorité n'est pas de faire des mathématiques, c'est de s'occuper de l'écologie. » Et petit à petit, il en est venu à examiner plus en détail ce que les collègues avaient fait. Il n'était pas content, et pensant qu'on n'avait pas développé ses idées comme il fallait ou qu'il avait été mal cité. Donc il est devenu de plus en plus amer et il s'est retiré, en quelque sorte, de la communauté mathématique avec laquelle il avait finalement rompu les ponts.
Vous l'avez vu quand pour la dernière fois exactement ?
La dernière fois que je l'ai vu, c'était, je crois, en 1982-83, à Montpellier, à l'occasion de la soutenance de thèse d'un élève de Jean-Louis Verdier.
Ouais. Et on n'a plus de nouvelles depuis ?
Après, occasionnellement, quelques correspondances, et à partir de 1990, il a tenu à ce que son adresse reste secrète. Ouais. Donc les lettres...
Vous la connaissiez, son adresse ? Vous saviez où il
Alors,
était ?
Alors, pendant longtemps, je ne l'ai pas connue, et puis, et d'ailleurs, je ne cherchais pas, comme d'autres ont pu le faire, à la découvrir. Finalement, je l'ai connue parce que Grothendieck m'a écrit en 2010 une lettre étonnante où il joignait une déclaration d'intention. Il demandait qu'on ne republie pas ses œuvres déjà publiées et qu'on ne publie aucune de ses œuvres inédites.
Oui.
Donc voilà. Donc c'était un texte assez sévère et triste, en même temps accompagné d'une lettre qui, pour moi, m'a navré parce que il s'adressait à moi en ces termes « Bonjour, monsieur Illusy ». Alors que pendant 10 ans, on s'était tutoyé, on était extrêmement proches.
Oui.
Et donc il avait coupé les ponts. Et c'était triste.
Luc Illusy, donc élève du mathématicien de génie Alexandre Grothendieck, décédé en novembre.
Sous prétexte d'avoir oublié ses gants, le lapin la laissa chez lui et selon ses plans. Elle devait tomber sur un cadeau sans égal, au lieu de ça, Alice trébuchait ses talons. Elle passa au milieu de la surprise dans le salon, son humeur prit la taille d'un melon. Gêné, le museau collé derrière la vitre, se prépare le départ de météorite d'un lapin qui se sent comme l'âne batté. Après avoir offert ce cadeau raté, c'est la porte-bonheur jamais vue de la plupart. Il fallait frapper pour entrer nulle part. On fait un rien de tout et de tout, quelque chose d'inutile. Fiez-vous à vos doutes et le goût de la vie devient volatile du tout au tout. On fait un rien de tout et de tout, quelque chose d'inutile. Fiez-vous à vos doutes et le goût de la vie devient volatile du tout au tout. Avec la porte on peut pas se blottir, mais Alice pouvait aller venir s'en sortir. Se fâcher, la fermer à double tour, l'appeler, pas de soucis si se perdent les clés. Contre l'improviste, y'a une sonnette, besoin de liberté, elle peut rester ouverte. Mais comme le bonheur était dans ses cordes, Alice n'a vu que midi à sa porte. Après avoir pleuré un autre fleuve, la voilà repartie dans la forêt seule. Ce chapeau sur pattes pouvait courir, fallait pas réfléchir avant d'offrir. On fait un rien de tout et de tout, quelque chose d'inutile. Fiez-vous à vos doutes et le goût de la vie devient volatile du tout au tout. On fait un rien de tout et de tout, quelque chose d'inutile. Fiez-vous à vos doutes et le goût de la vie devient volatile du tout au tout.
Ibrahim Malouf et Oxmo Puccino avec La Porte du Bonheur sur France Inter. On termine avec la rétrospective de l'année dans la tête au carré, une année également marquée par le centenaire de la Grande Guerre. Aux côtés des soldats, les animaux ont joué un rôle majeur. On estime par exemple à 11 millions le nombre d'équidés mobilisés pendant le conflit. L'historien Éric Baratet et le vétérinaire Claude Milot étaient venus nous en parler le 12 juin dernier.
La guerre est crue, hein, pour les hommes, mais aussi pour les animaux. Et c'est vrai que finalement, les photographes avaient peut-être moins peur de photographier certaines réalités animales que pour les hommes. Il y a ça aussi. Hein.
En tout cas, c'est vrai que c'est une toute autre façon, évidemment, de voir le conflit de la guerre que d'aborder cette question animale.
Oui, mais en même temps, c'est quelque chose qu'on a totalement oublié parce qu'on s'est fait de cette guerre une image de première guerre industrielle. Et dans cette optique-là, les chevaux, finalement, ne seraient qu'un aspect anecdotique ou anachronique. En réalité, on se rend compte que la guerre a été en grande partie déterminée par ces chevaux. Ouais. Je prends que deux exemples. 1914, la bataille de la Marne, les Français gagnent. Joffre veut contourner l'armée allemande, bénéficier de la victoire et conclure rapidement. Il ne peut pas. Pourquoi ? Parce que les chevaux sont épuisés et qu'ils ne peuvent pas suivre. Et inversement, 1918, lorsque l'armée allemande attaque au printemps 1918, elle réussit la percée, mais au bout d'un moment, les forces s'arrêtent. Elle n'arrive pas à conclure et à arriver à la victoire, en grande partie parce qu'elle n'a pas pu mobiliser tous ces régiments d'infanterie et tous ces régiments d'artillerie parce qu'elle manque de chevaux. Donc, deux exemples pour montrer à quel point ces animaux ont été importants.
Oui. Claude Millot.
Oui, il ne faut pas oublier dans cette affaire-là les ânes. Les ânes qui, à partir de 1916, ont joué un certain rôle. Et à Neuville-les-Vaucouleurs, en Lorraine, il existe une plaque commémorative rappelant que dans ce village, oui, il y avait un hôpital pour soigner les ânes en service dans la deuxième armée.
Alors quand on parle des animaux, évidemment, donc on parle des équidés, on parle des chiens, on parle des pigeons également, Éric Baratet.
Oui, les chiens et les pigeons, ce sont les deux autres espèces animales enrôlées. Il y a aussi des ânes, des mulets, du côté des équidés. Alors les pigeons, c'est pour transporter des messages. Ces pigeons, ils servent lorsque les autres moyens de transmission ne fonctionnent plus, lorsque le téléphone ne marche plus, lorsqu'on ne peut plus faire passer des coureurs, des hommes, parce qu'il y a trop de bombardements, lorsque les chiens eux-mêmes ne passent plus, on peut encore envoyer les pigeons. Donc c'est pas du tout, là aussi, un mode d'emploi qui pourrait nous paraître archaïque. Ça n'est pas du tout le cas. C'est au contraire un mode d'emploi tout à fait moderne à l'époque. Mmh. Et les Anglais vont employer encore beaucoup plus de pigeons voyageurs pendant la Seconde Guerre mondiale que pendant la Première Guerre.
Hein.
Les chiens, les chiens pouvaient servir à plusieurs fonctions. Il y avait les chiens, au départ, les chiens sanitaires chargés de retrouver les blessés. Mais comme le front s'est très vite stabilisé, ils ont été moins utiles. Donc, on a développé plutôt les chiens sentinelles, c'est-à-dire ceux qui étaient dans les tranchées chargés de repérer l'arrivée des coups de force, des coups de main de l'ennemi dans les deux camps. Il y avait beaucoup de coups de main pour essayer de faire des prisonniers et obtenir comme ça des renseignements.
Éric Baratet, après la guerre, comment se passe justement la sortie du conflit pour les bêtes, pour leur réinsertion ?
Pas très bien, parce qu'une bonne partie des chevaux, par exemple, vont finir à l'abattoir. La plupart des chevaux allemands que l'armée française ou l'armée anglaise capturent, ces chevaux sont dans un tel état de misère physiologique qu'ils partent directement à l'abattoir. L'armée anglaise va hésiter à payer le rapatriement de ses chevaux en Grande-Bretagne. Donc, elle préfère les vendre aux abattoirs français. Mmh. Et ça déclenche d'ailleurs un véritable scandale en Angleterre. Et les associations de protection vont même aller jusqu'à ouvrir des maisons de retraite pour chevaux anglais le long des côtes françaises, les côtes de la Manche. Et côté chien, une bonne partie des chiens côté français sont renvoyés à la SPA ou dans les fourrières.
Oui, c'est ça. Il y a déjà des associations de protection des animaux à l'époque.
Bien sûr.
Qui essaient de replacer les bêtes.
Oui, mais alors on se rend bien compte que ces animaux, en fait, la plupart ont dû finir gazés ou piqués. Donc en fait, alors il y a quand même des chevaux qui sont vendus à des paysans, qui retournent dans le monde rural. Mais alors cela, on ne sait pas trop quel a été leur devenir.
Voilà, l'historien Éric Baratet et le vétérinaire Claude Millot pour nous parler donc du rôle des animaux pendant la Grande Guerre. Voilà, ainsi s'achève cette rétrospective de l'année scientifique qui nous emmène tranquillement vers de nouvelles découvertes, dès demain pour 2015. Merci à Patrick Henry qui était à la technique. Je vous souhaite de passer un excellent réveillon. Toute l'équipe de La Tête au Carré vous retrouve demain 1er janvier. Et dans un instant, ce sera Affaires Sensibles avec Fabrice Drouel.
Merci Mathieu Vidard et à demain 14h pour la rediffusion d'une Tête au Carré sur le thème du subconscient et du cerveau mélomane.